le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour, on vous retrouve sur Radio FM+. C'est de nouveau Amnesty. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Adeline.
Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Je vais te parler d'un pays que beaucoup de gens sans doute ne connaissent pas, qui s'appelle le Sultanat de Brunei.
Oui, effectivement, on n'en a pas souvent parlé.
Est-ce que tu saurais le situer, par exemple ?
Alors oui, bien sûr, c'est au Moyen-Orient.
Non. Tout faux, voilà.
C'est
pas Bahreïn. Alors
c'est une petite
enclave dans l'île de Bornéo en Indonésie.
Ah, près de l'Indonésie, tout à fait.
Donc c'est pas très connu. Simplement, il a attiré l'attention d'Amnesty parce que il y a de nouvelles dispositions du code pénal de ce sultanat, donc qui est une énorme dictature, on va dire.
Oui.
Et qui va permettre que soient prononcées des peines de lapidation et d'amputation, y compris pour les enfants, pour n'en citer que les aspects les plus odieux. Voilà, donc tu as compris que c'était un pays musulman très strict, très rigoriste, voilà. Et donc la chercheuse d'Amnesty, on a des chercheurs qui s'intéressent à ces pays, qui s'appelle Rachel Shoah Howard, a déclaré ceci: les nouvelles dispositions du code pénal du Brunei donc permettraient que soient prononcées ces peines dont je viens de parler pour n'en citer qu'une. Et évidemment, elle invite le Brunei à revenir sur ses projets d'application de ces peines et réviser son code pénal dans le respect de ses obligations relatives aux droits humains. Et ces peines sont inscrites donc dans de nouvelles sections du code pénal islamique alors il s'appelle cet état Brunei Darussalam, qui doivent entrer en vigueur le 3 avril, d'après un avis diffusé en toute discrétion sur le site de la procureure générale.
Mais est-ce que c'est pas cet état justement pour lequel il y a des personnalités, enfin des célébrités, on va dire, qui ont fait un petit appel au boycott?
Exactement, c'est ça dont l'acteur américain
George Clooney,
toujours. On peut se moquer de lui, mais en fait il a de l'importance dans ce fait qu'il prend parti en disant que c'est scandaleux, qu'on peut pas être indifférent.
Oui, tout à fait. Puis c'est bien de mettre. C'est peut-être aussi ça qui permet de mettre en lumière un certain nombre de choses.
Ça peut mettre la pression aussi, effectivement.
Oui, parce qu'il a appelé un boycott des palaces.
Des hôtels, voilà. Des hôtels.
Donc il y en a quand même deux en France. Alors je ne sais pas si nos auditeurs vont beaucoup dans les palaces. Mais enfin, si jamais ils allaient au Meurice et au Plaza.
Ces deux hôtels.
C'est absolument. On vous demande de le boycotter.
Voilà, parce qu'en fait, c'est le fait de rendre illégal ces peines cruelles et inhumaines est en soi consternant. Certains des actes incriminés, comme les relations sexuelles consenties entre adultes du même genre, ne devraient même pas être considérés comme des infractions, a déclaré Rachel Schauerwarn. Ces dispositions avaient été largement condamnées lorsqu'elles avaient été débattues pour la première fois il y a de cela 5 années. Et ça remonte à 2014, et Amnesty avait exprimé de vives inquiétudes. Alors c'est un texte profondément vicié qui prévoit des peines cruelles, inhumaines et dégradantes, mais restreint également de façon flagrante les droits à la liberté d'expression, ça c'est important, liberté de religion, liberté de croyance, et qui inscrit, tiens-toi bien, dans la législation, la discrimination à l'égard des femmes et des filles.
Mais c'est incroyable, parce qu'on pourrait penser quand même qu'aujourd'hui, c'est interdit par le droit international, par exemple, d'avoir des législations comme ça.
Et toutes les formes de châtiment corporel, telles que la lapidation, l'amputation ou la flagellation, sont interdites au titre du droit international, puisqu'elles s'apparentent à de la torture, interdites en toutes circonstances, interdites dans les principaux instruments relatifs aux droits humains. Mais évidemment, la plupart de ces instruments relatifs aux droits humains n'ont été ni signés ni ratifiés par le sultanat du Brunei. Et en outre, cette interdiction est considérée comme une règle inconditionnelle du droit international coutumier, ce qui signifie que tous les États sont tenus de la respecter, même s'ils ne sont pas partie prenante au traité relatif aux droits humains. Tous les actes de torture sont des crimes au regard du droit international. Alors, la peine de mort est maintenue en droit, évidemment, au Brunei, mais heureusement, on va dire, le pays est abolitionniste dans la pratique, bien qu'une nouvelle sentence capitale ait été prononcée il y a 2 ans pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. Voilà, alors on espère que la pression internationale sera suffisamment forte pour faire reculer C'est un tout petit pays, hein, mais enfin...
C'est un tout petit pays, mais pour les gens qui y vivent...
c'est absolument abominable.
C'est assez abominable. Eh bien, espérons effectivement que, comme pour d'autres pays en d'autres temps, il y a une pression internationale un peu importante. Voilà, à minima, de ne pas y aller et oui. de boycotter effectivement
et
les palaces.
Et de faire pression et de signer les pétitions signer les sur pétitions. Le site amnesty.fr pour lutter contre ces pratiques d'un autre âge.
Tout à fait. Et voilà, on reprend notre émission, le petit point d'Amnesty. Bonjour Jean-Marie.
Tout à l'heure,
tu nous as parlé du petit sultanat du Bahreïn.
Et alors, du Brunei.
On confond ces pays qui, malheureusement, tous les deux ont beaucoup de choses à se reprocher.
Oui, hein. Alors, le Bahreïn.
C'est un émirat du Moyen-Orient.
Voilà, et il s'est rappelé à l'attention d'Amnesty parce que, comme tu le sais sans doute, tu aimes bien les Grands Prix de Formule.
Mais bien sûr.
Que tu regardes assidûment. Et le week-end du 30-31 mars, il y avait le Grand Prix du Bahreïn de Formule 1. Évidemment, le pays a réussi à faire parler de lui à cette occasion. Et évidemment, les chaînes de télé qui retransmettaient cet événement n'ont pas parlé du sinistre bilan en matière de droits humains. Et donc, c'est l'occasion pour Amnesty de rappeler que derrière les paillettes de ce Grand Prix de Formule 1 se cache la sinistre réalité d'un pays placé sous la férule d'un État extrêmement répressif où toute personne qui critique le gouvernement peut être emprisonnée, ne serait-ce qu'en raison de la publication d'un tweet. La preuve, c'est que d'éminents des défenseurs des droits humains sont attaqués de façon incessante dans le pays. Exemple, Nabil Rajab a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, je dis bien 5 ans, pour avoir publié un tweet au sujet du conflit au Yémen et d'allégations d'actes de torture dans la prison de Jeddah dans son pays. Au lieu de se fabriquer une image flatteuse grâce au sport, dit Amnesty, et de masquer un très sombre bilan en matière de droits humains en utilisant un sport de vitesse, le gouvernement de Bahreïn devrait immédiatement abroger les lois qui répriment pénalement la liberté d'expression et accélérer le processus de remise en liberté des prisonniers d'opinion. Alors, il faut savoir que depuis mi-2016, les autorités du pays mènent une campagne systématique visant à supprimer les mouvements d'opposition organisés dans le pays. Principale cible de cette répression tous azimuts, évidemment les défenseurs des droits humains, les journalistes, les militants politiques, les dignitaires chiites et les militants pacifiques. Les dirigeants politiques de la communauté chiite majoritaire ont été visés de façon disproportionnée. Là, on retombe dans les querelles religieuses, hein, chiites, sunnites. Et aucun dirigeant politique chiite d'envergure nationale n'a été épargné par les mesures d'arrestation, d'emprisonnement ou de privation de la nationalité, on va jusqu'à là, du Bahreïn. Hein. Donc ça veut dire que ça fait des gens apatrides. Hein. Au début du mois, par exemple, Ebrahim Sharif a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis de 3 ans, en raison d'un tweet critiquant le président soudanais Omar el-Béchir. Sheikh Ali Salmane, dirigeant d'un principal groupe d'opposition politique, a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, en raison de ses opinions considérées comme critiques à l'égard des autorités. Voilà. Donc il y a tout un arsenal de lois qui fait que depuis 2011, plus de 800 personnes ont été privées de leur nationalité. De plus, 115 d'entre elles ont perdu leur citoyenneté à la suite d'un procès collectif qu'Amnesty qualifie d'absurde, reposant sur des aveux extorqués évidemment au moyen de la torture.
Comme d'habitude.
Et oui, alors il y a une tristement célèbre prison qui s'appelle Jeddah. Hein, Jeddah, c'est la mâchoire, hein, J-A-W. Les détenus sont privés de soins médicaux. Dans certains cas, des personnes souffrant de graves maladies telles que le cancer, la sclérose en plaques, sont privées de médicaments et de soins spécialisés. Voilà, donc on peut dire dire que c'est une forme de torture de priver les gens, donc de les condamner à mort à terme. Hein. Voilà, triste réalité. Allez, une bonne nouvelle peut-être.
Oui, une bonne nouvelle parce que
cette ambiance morose.
Quand même, alors on reste au Moyen-Orient, puisque là il s'agit de l'Arabie Saoudite, que d'habitude nous ne portons pas au nu quand même, parce que c'est aussi un pays qui vraiment en matière des droits humains.
Hein.
Non. Et alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait trois militantes qui avaient été emprisonnées. Alors, elles aussi, pour défendre les droits humains, particulièrement pour défendre le droit des femmes à la conduite, ce qui était quand même absolument incroyable.
Bah on pensait que c'était entré dans les mœurs,
C'était en train d'être mœurs, mais enfin, elles étaient quand même restées en prison parce que ça s'était passé
avant
la loi. Donc, ces trois femmes ont passé 10 mois en prison. Bon, dans des conditions absolument, absolument épouvantables. Donc, il s'agit de Iman Al-Navjan, Aziza Al-Youssef et Rukaya Al-Mareb. Donc, elles ont été libérées là, très récemment, le 28 mars dernier. On avait fait des pétitions pour elles à Amnesty. Oui. On avait manifesté lors du 8 mars avec des pancartes.
Il
y a énormément de courriers qui sont parvenus à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Bon, ce qui prouve une fois de plus qu'effectivement, les actions servent.
Hein, et ça met une pression. Ça a pu avoir un rôle.
Alors, on est extrêmement heureuse pour ces trois femmes. On continue bien sûr à demander la libération d'autres femmes, dont Madame Al-Altoul, qui elle aussi est emprisonnée exactement pour les mêmes motifs, toujours pour avoir revendiqué le droit pour les femmes de conduire. Ah oui, aussi elle a fait quelque chose de très grave dans ce pays. Elle avait demandé que soit mis fin au système de tutelle masculine.
Je pense que malheureusement, ça va lui valoir
beaucoup d'années de prison. Donc, mais enfin, c'est quand même une bonne nouvelle pour ces militantes.
Hein. Et on s'en félicite, bien sûr.
Voilà, on s'en félicite et on vous dit, effectivement, continuez à écrire, continuez, que ce soit sous forme papier ou signer des pétitions sur notre site amnesty.fr, voilà, pour que ces gens qui souvent sont un peu dans l'oubli, soient mis en lumière. Alors, on va vous parler aussi d'autre chose aujourd'hui, parce que ça fait un petit bout de temps avec l'actualité que c'est un petit peu passé à la trappe. On va vous parler une fois de plus des migrants.
Ah, du problème des migrants, oui.
Du problème des migrants, problèmes. Parce que on a l'impression qu'on n'en parle plus, comme si il n'y avait plus de migrants. Alors qu'il y a encore 2 jours à Paris, à la Porte de la Chapelle, un camp de migrants a été expulsé. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que très très récemment, les États européens ont décidé de retirer leurs navires de la Méditerranée, où on sait que se noient régulièrement des centaines de personnes.
Et qu'il n'y a plus de bateaux de secours.
Il n'y a plus de bateaux, voilà. Donc en fait, maintenant, l'Europe a décidé de surveiller la mer Méditerranée uniquement via les avions. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Les gens vont regarder. J'imagine que les pilotes d'avions vont regarder du haut de leur avion les gens se noyer. Et l'Union européenne a décidé de renforcer le fameux accord avec la Libye, tu sais, où on demandait aux gardes-côtes libyens d'aller chercher les migrants pour bien sûr les ramener en Libye, où tout le monde sait ce qui se passe. Alors c'est quand même hallucinant, parce que il se passe des choses absolument hallucinantes, et l'Europe, au lieu d'essayer de sauver les gens qui se noient, décide de mettre tout son argent, une grande partie de son argent, pour la soi-disant la formation des gardes-côtes libyens. Et de demander à la Libye, mais un peu comme elle avait demandé à la Turquie pour l'accord Europe-Turquie, demander à la Libye de s'occuper des migrants. Ce qui est encore pire, vu effectivement ce qu'on sait de ce qui se passe en Libye.
En Libye, oui.
Voilà, et d'ailleurs, je voudrais vous lire un petit témoignage qui a été recueilli par un chercheur. C'est un chercheur d'Amnesty qui a été en Libye. Et voilà ce qu'il nous raconte. Farah, un jeune homme somalien, sa femme et leur fille qui venaient de naître, avaient déjà passé 12 heures en mer quand les gardes-côtes libyens ont intercepté leur canot. En fait, ce couple avait fui la Syrie, où ils avaient déjà été arrêtés plusieurs mois, dans un hangar dans lequel ils avaient été torturés, dans lequel Farah avait été battu et sa femme violée par des bandes criminelles libyennes qui essayaient d'obtenir une rançon de leurs proches. Ouais, hein, c'est souvent ce qui se passe. Donc ce couple et ce bébé ont réussi à fuir dans un canot via la Méditerranée. Et là, ils ont été récupérés par ces fameux gardes-côtes libyens, plutôt que d'être sauvés par les bateaux de l'Europe.
Mais l'Italie n'en veut pas, il faut rappeler.
Personne n'en veut. Les bateaux comme SOS Méditerranée ont été interdits de naviguer dans ces eaux. Donc, lorsque ce couple a réalisé qu'il allait être envoyé en Libye, le jeune homme de 24 ans a été pris de nausée. Il a dit « Je savais qu'il valait mieux mourir que de retourner en Libye. Mais ils nous ont menacés avec des armes et nous n'avons pas eu d'autre choix. » Donc Farah, sa femme et son bébé ont passé les 7 mois suivants dans deux centres de détention de Tripoli. Il n'y avait pas de nourriture, pas de soins. Notre bébé a fini par mourir à 8 mois. Elle s'appelait Sagal. Voilà, ça c'est une des nombreuses histoires hein, qu'on connaît maintenant, qui sont mises en lumière, que l'Union européenne connaît très bien. Et malgré ça, eh bien, au lieu de sauver les gens qui, de toute façon, essayent d'échapper à cet enfer et vont en Méditerranée, eh bien, on les ramène en Libye.
D'ailleurs, à réfléchir au moment des élections européennes.
Voilà, hein, alors c'est vraiment pour ça que...
J'espère que ce problème sera soulevé. Hein.
À Amnesty, on appelle ça un naufrage européen, parce qu'en fait, c'est une catastrophe. Et vraiment, tout le monde se dépose. Il faut absolument que le gouvernement européen revienne sur leur décision et maintienne le sauvetage en mer. Voilà, qu'il y ait une véritable politique européenne de relocalisation rapide avec une véritable coopération des États européens.
Ça ne semble pas être à l'ordre du jour.
Ça ne semble pas être à l'ordre du jour et c'est bien malheureux. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu ce matin que sur le site de France Info, ils ont publié une petite vidéo d'un rappeur parisien qui s'appelle El Gato Negro. Le chat noir, qui s'appelle Ouvrez la porte, et qui en fait, il a fait une reprise, je ne sais pas si tu te souviens, la chanson de Brassens, L'Auvergnat.
Oui.
Voilà.
Et ben, elle est à toi, cette chanson.
Elle est à toi, cette chanson. Qui... Voilà, donc il a repris sur ce, alors en rappant, bien sûr, sur cet air, une chanson qui s'appelle Ouvrez la porte, et qui parle justement d'un migrant qui fuit l'Afrique. Et il a fait ce clip avec le soutien d'Amnesty International et de la CIMAD. Donc vous allez sur le site de France Info et vous écoutez cette petite vidéo qui est extrêmement touchante et qui nous rappelle que voilà, oui.
Ouvrez votre smartphone.
Voilà, il y a des hommes et des enfants qui continuent à fuir les horreurs, fuir la misère et que l'Europe peut accueillir.
On craint beaucoup que beaucoup sujet mieux. ne soit pas abordé
absolument ou de façon bien caricaturale.
Merci. Amnesty International sur les ondes de FM+. Jean-Marie avec Adeline.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour, dernière partie de notre émission. Un problème auquel tu es sensible, Adeline, celui du statut des femmes.
Mais voilà.
Alors on va parler de ce problème en l'abordant au Maghreb, puisque l'Algérie fait parler d'elle en ce moment.
Absolument.
Et donc on voudrait vous présenter une analyse comparée très intéressante qu'a faite Amnesty sur le statut de ces femmes au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Tu peux nous en dire plus ?
Oui, parce qu'on sait que c'est au Maghreb, vraiment, la question du droit des femmes, c'est quelque chose de très important, parce que pendant très longtemps, c'est quelque chose qui a été un peu... On a soupçonné, c'était les gouvernements, hein, bien sûr, disaient qu'accorder des droits aux femmes, on était soupçonné d'occidentalisation, tu sais, un peu voilà, de vouloir être un peu comme les colons, par exemple, c'était associé, ou alors c'était anti-religieux. Donc, bien sûr, les choses évoluent, hein, notamment pour un pays comme la Tunisie, mais l'ordre patriarcal, c'est quelque chose qui reste extrêmement présent, accolé à l'ordre religieux. Ce qui fait que les législations ont beaucoup de mal à évoluer. Ouais. Et on va voir qu'effectivement, notamment pour le Maroc et pour l'Algérie, mais même quand même pour la Tunisie, ce qu'il y a inscrit dans la Constitution, eh bien forcément, ça empêche les femmes d'avoir des droits et de progresser. Alors justement, dans cette étude comparative, est-ce que tu peux nous dire, par exemple... Jean-Marie, par exemple, au niveau de l'égalité, déjà, au niveau de ce qu'écrit la Constitution...
Tu parlais des constitutions, a priori, oui. Elles sont très favorables au statut des femmes, puisque que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, les constitutions, respectivement de 2011, 2016 et 2014, stipulent que il n'y a pas de forme de discrimination, y compris celle fondée sur le sexe, tous les citoyens et citoyennes sont égaux devant la loi.
Ah, bah c'est merveilleux,
et
alors.
Et les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà, donc en théorie, c'est très bien.
C'est écrit, voilà. C'est inscrit dans le marbre.
Alors, il y a la réalité, la pratique. Et oui.
Alors, par exemple, pour l'adultère.
Alors, pour l'adultère, le Maroc le considère comme une infraction pénale. Alors, déjà, on voit que c'est pas égalitaire. Hein. Bon, puis on peut supposer que les hommes sont mieux lotis que les femmes dans
tout
ces cas-là, comme souvent. Hein. En Algérie, c'est également une infraction pénale. Donc, on peut pas tromper sa femme ou son mari. Et également en Tunisie, voilà. Donc, les trois se retrouvent là-dessus. Alors, il faut préciser que à propos de ces lois. Au Maroc, il y a l'alinéa 2 de l'article 475 du Code pénal qui permettait à un violeur d'échapper aux poursuites en épousant sa victime a été aboli.
Oui, après d'ailleurs de longues luttes. Bon,
même
il était
chose
temps.
En 2017 seulement en Tunisie. Hein, donc on voit qu'il est considéré comme le pays le plus progressiste. Donc on voit quand même que ça va pas très très vite. Hein.
Tout à fait. Alors cette fameuse égalité hein, que nous dit la Constitution, donc tout le monde est, il y a aucune forme de discrimination, c'est interdit. Par exemple pour le mariage et le divorce, parce que ça c'est quand même des choses qui pour les femmes
ah,
en
oui,
général.
C'est très concret. Hein.
Oui. Alors qu'est-ce qui se passe au Maroc?
Un homme qui veut divorcer unilatéralement doit demander l'autorisation du tribunal.
Oui, et pour la femme.
Si une femme souhaite divorcer sans motif ni consentement de son conjoint, elle doit lui payer une compensation.
Ah, ben voilà, la discrimination.
Oui, il n'y a pas tout à fait égalité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En Algérie, les deux conjoints peuvent établir les conditions du contrat de mariage. Un homme peut exiger le divorce unilatéralement. Si une femme souhaite divorcer sans motif ni consentement, elle doit payer une compensation.
Eh ben voilà, en plus on peut imaginer que la compensation est au libre arbitre du juge.
Bah
donc
oui.
Ça veut dire ça empêche les questions financières, on sait bien. Ça veut dire que ça empêche les femmes de divorcer,
bien sûr. En Tunisie, le code institue le mariage civil avec consentement des deux époux et donne aux hommes et aux femmes un accès égal au divorce.
Bon, voilà un progrès. Et alors, une dernière chose, justement, en Algérie, là, on a vu pendant les manifestations, les femmes ont beaucoup, beaucoup parlé, c'est la fameuse question de l'héritage et du droit de succession.
Oui, alors au Maroc, les femmes héritent de la moitié de ce qui revient aux hommes, donc c'est la loi islamique qui prévaut sur la constitution civile, hein, la moitié quand même.
Oui.
En Algérie, les femmes héritent de la moitié de ce qui revient aux hommes, selon la loi islamique. Et en Tunisie, les femmes héritent de la moitié de ce qui revient aux hommes, selon la loi islamique. Un projet de loi a été annoncé en août 2018 pour établir une égalité, mais pour l'instant, on n'en a pas de nouvelles. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire.
Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots d'ordre, de pancartes dans les manifestations en Algérie, hein, où les femmes réclament effectivement ce qui est tout à fait normal, et ce qui, effectivement, serait l'application de la fameuse constitution qui dit bien
qu'il
est interdit toute forme de discrimination, y compris, c'est écrit noir sur blanc dans la constitution de ces trois pays, y compris celle fondée sur le sexe.
Ouais.
Donc on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup la loi islamique s'applique pour ces questions de succession.
Un petit mot sur la polygamie pour terminer, parce qu'on n'y pense pas, mais ça existe. Hein. Au Maroc, elle est soumise à l'autorisation du juge, donc ça veut dire que c'est quand même, ça peut encore se pratiquer. Hein. Pas tout à fait pareil. En Algérie, elle est soumise à l'assentiment de la première femme, puisque polygamie, ça veut dire plusieurs femmes,
bien sûr.
À la certification par un tribunal. Et le code exige que le mari puisse apporter un soutien financier adéquat. Bon, on va savoir ce que ça veut dire.
Oui.
Par contre, à signaler qu'en Tunisie, la polygamie et la répudiation sont interdites, de fait. Voilà. La Tunisie se distingue quand même par quelque chose d'un peu plus
progressiste et surtout qui applique mieux ce que dit la Constitution.
La Constitution, hein, voilà. Donc on voit toujours le décalage, hein, comme tu l'as dit, entre de beaux textes et puis leur réalité sur le terrain.
Bon, on souhaite quand même à toutes ces femmes et tous ces hommes aussi, parce qu'il y a aussi des hommes qui luttent pour l'égalité, heureusement.
Tout à fait. Hein. Et on espère qu'en Algérie, à l'occasion des manifestations actuelles, il pourrait y avoir des progrès
pour les droits humains et pour le statut des femmes.
Qui sont très présentes dans les manifestations, comme vous pouvez le voir à la télévision. Hein.
Tout à fait. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on vous incite à aller sur notre site amnesty.fr pour lire des choses que vous ne lirez nulle part ailleurs.
Absolument.
Et pour signer des pétitions et nous aider à défendre les défenseurs des droits humains. Voilà, on vous retrouve pour la prochaine fois sur le Radio FM plus 91. Au revoir.
Merci de votre écoute. Au revoir.